Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Fin de match complètement folle ici au King Power.
Oh,
et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue, le plus beau des championnats au monde. Le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport les matchs. Le lundi, on se retrouve pour le débrief dans PL Zone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute avec Flora Moussi. Bonjour Flora.
Salut à tous.
Bonjour Loïc Moreau.
Salut.
Avec de nombreux autres intervenants. Oui, il est très enjoué, j'ai envie de dire.
Comme toujours,
c'est vrai, Loïc Moreau. Avec de nombreux autres intervenants. Je le disais, de grosses parties dans ce podcast. La partie mag, vous le verrez dans un instant à travers le Manchester United Arsenal de ce jeudi. Mais d'abord, dans PL Zone, le podcast épisode 6, lecture démarre avec nos trois gros qui nous occupent encore et toujours.
Quel ballon pour Robertson et Diogo Jota qui est à la conclusion, 1 minute 37 secondes et déjà Liverpool qui mène à 0. Jota s'était loupé la fois précédente, là il n'a laissé aucune chance à McCarthy, et déjà 1-0 pour les Reds.
Bernardo Silva, Jesus avec Fernandinho qui ajuste, Fabianski, le super sub de Guardiola, Fernandinho qui permet à City de mener 2-0.
Attention
Fernandez, il s'est trompé, Jorginho et Sancho et Rashford. Sancho qui vient mystifier Edouard Mendy. La sensation ici à Stamford Bridge.
Et donc Chelsea qui a été coincé à domicile par Manchester United, score final 1-1, le seul gros à avoir déraillé ce week-end, là où Liverpool et Manchester City se sont imposés. Oui, Flora, Chelsea qui a été embêté ce week-end.
Bah, ils affrontaient pas n'importe qui non
c'est
plus,
vrai,
Chelsea,
c'est vrai,
ce
c'est
week-end
vrai.
Quand même. Non, c'était une équipe un peu revancharde quand même de Manchester United. Alors voilà, United a subi, plus que subi dans ce match, mais contrairement aux autres matchs, ils ont réussi à résister. Et c'est vrai que Chelsea a parfois paru un petit peu sans solution. Ils ont eu les opportunités, mais ils n'ont pas été assez réalistes finalement dans ce match-là. De Gea fait encore quelques parades importantes, mais Chelsea, et malgré moi, je me suis fait la réflexion parce qu'il y a eu des changements de Tourelle. Voilà, Pulisic qui rentre, Mount qui rentre, Lukaku qui rentre. Là, on se dit, ok, à côté, en face, tu avais Lingard qui rentrait. C'est pas pour lui faire offense, mais c'est pas la même armada des deux côtés. Et au final, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Donc, quelques lacunes quand même dans ce match pour les Blues.
Allez, on part en Angleterre. Bonjour Mathieu Fonry.
Bonjour Salim, bonjour tout le monde.
J'ai l'impression que vous avez un peu froid là Mathieu, en vous entendant presque.
Ouais, c'est ça, c'est parce que je suis plus dans mon appart londonien, je suis monté au nord-ouest, je suis devant le parvis d'Old Trafford avec un petit bonhomme de neige qui a été fait sur une table de pique-nique en attendant le prochain entraîneur des Red Devils.
Donc en gros, il fait pas 25 degrés, hein, je crois qu'on aura compris à peu près. Est-ce que la presse elle titille un petit peu?
Ah non, là j'ai les premières neiges.
Ouais, est-ce que la presse elle titille un petit peu Chelsea?
Bah c'est plus que titillé, c'est même critiqué parce que le Guardian par exemple parle d'une ligne d'attaque qui n'apporte pas assez, qui manque d'imagination, au point où il était surprenant de voir Timo Werner titulaire malgré ses maladresses selon la presse anglaise. The Athletic est d'accord en disant que le gâchis offensif de Chelsea jette un doute sur la crédibilité des Blues pour la course au titre. Sur Sky Sports, on avait aussi les consultants Roy Keane et Jimmy Floyd Hasselbank qui décrivaient d'arrogant le comportement de Jorginho, qui restait dépité dans le rond central après sa perte de balle meurtrière sur le but de Sancho. Et enfin Sky Sports encore qui évoque un match qui aurait pu être gagné 9 fois sur 10 par les Blues, mais qui voit qu'ils perdent deux très gros points dans la course au titre.
Loïc, est-ce que les chiffres ont été en faveur de Chelsea, j'ai l'impression quand même, non ?
Largement même, si on prend donc les expected goals par rapport à la qualité des occasions que Chelsea s'est procurées, ils sont largement devant United, 2,51 contre 0,73. Alors on rappelle qu'il y a un pénalty dedans. Si on enlève ce pénalty, le chiffre est toujours en faveur de Chelsea, 1,72 contre 0,73. Alors après, je trouve que c'est un petit peu sévère de les juger forcément qu'ils vont perdre des points durant la saison, mais les occasions, la qualité des occasions qui sont créées là, donc du coup c'est quand même bon signe. Après forcément offensivement, il y a Werner qui revient de blessure, Lukaku qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais voilà, les chiffres offensifs en tout cas sont pas mauvais.
Mais c'est ça qui est assez bizarre, parce que les XG traduisent en tout cas la partie et la domination de Chelsea, mais d'un autre côté, Flora, on regardait ce match ensemble avec Johan Jourou, également avec les commentaires d'Emmanuel Petit et de Jérôme Sillon, et c'est vrai qu'on a eu une impression de voir Chelsea avoir beaucoup d'opportunités, mais pas des opportunités construites, j'entends par là où Liverpool, et on l'évoquera dans un instant, ou même City, il y avait quand même beaucoup plus de fluidité dans le jeu, mais Chelsea c'était par à-coups, des à-coups dangereux et par à-coups.
Mais là où je rejoins un peu Loïc, en fait, c'est qu'il y aura toujours des coups de moins bien une fois dans la saison, ça marchera moins bien sur un match, sans pour autant qu'il y ait de conclusion particulière à en tirer. Des fois, c'est l'opposition en face, peut-être, et je vais dire ça sans le savoir, mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas forcément à voir une équipe de United pressée autant qu'elle ne l'a fait, vu les dernières performances des Red Devils. Franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Peut-être qu'eux aussi ont été surpris, et du coup, ils n'ont pas su vraiment comment réagir. Je veux dire, ils n'ont pas l'habitude de voir. Même Fernandez a été plutôt important dans le pressing. Enfin, il a montré autre chose. Matic, il fait un bon match tous les je ne sais combien du mois. Bon, ça tombait aujourd'hui, malheureusement pour eux, contre son ancien club en plus. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça, qu'ils ont été un peu surpris, et ils n'ont pas su trouver la bonne solution tout de suite. Mais voilà, il n'y a pas non plus à s'alarmer quand on voit, c'est vrai, l'armada offensive qu'ils ont. Les chiffres, tu l'as dit, Loïc, ils sont là. Maintenant, c'est drôle, moi, ça m'interpelle parce que c'était plus l'inverse. Au début de saison, ils surperformaient un peu. Non, dans les chiffres offensifs, et là finalement ça revient un peu à l'inverse.
Oui, absolument, mais c'est souvent comme ça, ça finit toujours par se tasser, on va dire. Là, il y avait Thomas Tuchel qui avait dit dans une interview à CBS qu'il était très content parce que sur les XG défensifs, donc par rapport à la qualité des occasions qu'il subissait, il avait noté une grosse progression sur les 3-4 derniers matchs. Là encore, United ne se crée pas des occasions très dangereuses. Après, ils marquent effectivement sur...
Ils sont
réalistes. Donc il faut toujours dissocier le résultat de la performance. Et là, pour le coup, bon, le résultat n'est pas favorable à Chelsea, c'est une évidence. Mais en termes de performance, voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour l'instant.
Bon, ce qui est satisfaisant, c'est d'être revenu dans la partie, comme a pu le dire Edouard Mendy au micro RMC Sport de Julien Laurence.
On a eu la force de caractère de revenir au score et on aurait même pu passer devant. Mais c'est des choses qui sont positives pour la suite. Il faut toujours tirer du positif de ce genre de ce match, parce que comme on a pu le voir, on a été au-dessus dans tous les compartiments du jeu et voilà, il va falloir aller prendre des points à l'extérieur comme on le fait depuis le début de saison.
Et c'est vrai que Chelsea performe à l'extérieur, on aura l'occasion de l'évoquer, que ce soit sur RMC Sport à la télé, mais également dans ce podcast. Donc pas d'inquiétude au final, Mathieu?
Pas d'inquiétude, pas forcément, comme disait Loïc, pour tempérer un petit peu. Chelsea, ça reste une équipe qui est sur 4 victoires sur ses 6 derniers matchs, qui a notamment joué sans Lukaku, qui a encore une fois commencé sans Lukaku, sans Pulisic, sans Mount, qui sont des armes offensives extrêmement fortes cette saison. Ça reste une équipe sous le jeu de Thomas Tuchel qui est capable de rester assez, comment dire, un peu difficile à anticiper au niveau de son jeu, qui arrive à varier d'un match à l'autre. Donc je pense que c'est encore une équipe qu'on peut attendre sur de très gros résultats.
Chelsea qui affrontait Manchester United sans Cristiano Ronaldo, donc qui a démarré sur le banc. Michael Carrick nous a assuré que Ralf Rangnick n'avait pris aucune décision, en tout cas qu'il n'avait eu aucune incidence sur la décision de Michael Carrick de ne pas titulariser le portugais. Si je parle de l'allemand, c'est qu'il a été officialisé sur ce banc. Enfin, Flora, il va avoir 6 mois pour travailler.
Oui, dans les faits, 6 mois. Après, il y a un vrai projet de construction, je pense, autour de l'entraîneur allemand. Il va rester 2 ans après avec un rôle de consultant. La question, c'est de savoir qui sera l'entraîneur de Manchester United au moment où lui sera consultant dans le staff des Red Devils. Mais s'il vient, c'est surtout pour là essayer de limiter la cage jusqu'à la fin de saison. Parce que là, United est quand même décroché par rapport au top 4. Donc, s'ils veulent aller chercher cette place en Champions League, vu la concurrence, il va falloir vite réagir. On va le voir, je pense, dès jeudi soir avec ce match contre Arsenal. On verra déjà s'il y a quelques changements dans le 11 de départ. Est-ce que vraiment il va changer quelque chose, apporter vraiment déjà quelque chose? Je pense que Carrick a a peut-être mis déjà sur la table les prémices de quelque chose sur ce match-là. En tout cas, en termes de réaction, ne serait-ce que dans le comportement des joueurs, il a apporté au moins déjà quelque chose. Et je pense que c'est le point de départ, effectivement, du projet que va mettre en place Ralf Rangnick à United.
À l'issue de cette journée, 5 points de retard pour Manchester United sur la 4e place occupée par West Ham, les Hammers qui ont été battus par l'autre Manchester, City 2-1. Or, certes, le score est serré, Flo, mais l'impression globale, City a été au-dessus et par séquence même très au-dessus, en tout cas très serein surtout.
C'est surtout ça en fait, ouais. Serein, je pense que c'est le mot. Et moi, c'est ce qui m'impressionne chez cette équipe-là. Non pas que le Chelsea ou Liverpool ne le soient pas, mais avec City, on sent vraiment une espèce de force tranquille qu'ils dégagent énormément. Parce que ce n'était pas un match simple d'affronter West Ham. Les conditions météo étaient horribles. Et pourtant, ils n'ont jamais paniqué. Ils ont mis le temps pour s'installer dans le match, etc. Puis Gundogan, il vient marquer son petit but tranquillement.
Ce qui était impressionnant, c'est de voir le jeu de City, même avec la neige. Oui, ça continuait, c'est tranquille.
Ça ne les gênait pas, en fait. Je veux dire, ils étaient vraiment dans ce contexte très serein. On verra avec les chiffres avec Loïc. Mais bon, c'est le jeu de City, la possession. Je crois qu'ils touchent deux fois plus de ballons que West Ham, non, c'est
ça?
Oui,
ils sont à 68%, donc écrasant possession.
Ouais, donc voilà. Donc après, à partir de là, ça se traduit effectivement dans les chiffres, mais l'impression globale est que West Ham, même s'ils reviennent en toute fin de match, on les a pas vus finalement dans ce match-là.
Non, mais tu le dis, Flora, t'as raison. De toute façon, encore une fois, avec les expected goals, on peut évaluer la qualité des occasions de part et d'autre. Et là, le chiffre est sans appel, 2,65 contre 0,21. Donc, c'est plus un 3-0 qui aurait dû y avoir, entre guillemets, par rapport aux occasions que City s'est procuré. Et surtout, c'est vrai que West Ham n'a pas fait grand-chose. Il n'y a que contre Norwich et Arsenal que City a subi des occasions d'une qualité moindre que face à West Ham. Donc là encore, c'est ce que tu disais, Flora. Le score n'est pas forcément révélateur en fait, de ce qu'on a vu sur le terrain et de ce que disent les chiffres.
La semaine passée, dans PL Zone, le podcast, on écoutait Trent Alexander-Arnold évoquer cette course au titre déjà et évoquer les deux autres adversaires potentiels pour lui, donc City et Chelsea. Et Pep Guardiola il parle des deux autres adversaires potentiels, Chelsea et Liverpool.
On aimerait avoir 10 points d'avance sur Chelsea ou sur Liverpool, mais honnêtement, c'est impossible, parce que ce sont vraiment, vraiment de bonnes équipes. Peut-être les meilleures équipes que j'ai affrontées dans ma carrière. C'est exceptionnel. Les joueurs sont toujours là, ils ont toujours faim de trophées, et c'est une bonne chose. On va essayer de garder la même mentalité, et une fois arrivé en fin de saison, on espère encore être en course pour le titre.
Carrément les meilleures équipes qu'il ait eu à affronter. En même temps, on va dire que d'habitude, il a une équipe à affronter.
Ouais.
En Espagne, c'était une.
Ouais.
En Allemagne, c'était une. En Angleterre, c'était une. Liverpool. Et là, il en a deux, en fait.
Ouais, mais nous, on se régale. Enfin, quand on voit ça, on se dit, mais c'est super. Ça nous rappelle. Enfin, voilà, le top 4, il n'existait plus vraiment en Premier League ces dernières années. Tu avais deux équipes, Liverpool et City, qui se tiraient la bourre pour ce titre de champion. La Chelsea est revenue en force pour créer un peu de suspense. Et franchement, nous on prend. Enfin, quand on voit tout ça, on se régale tous les week-ends et ça va continuer pendant la période des fêtes où on se dit mais tout peut se passer finalement, ils peuvent tous être accrochés à un moment ou à un autre, donc on se dit le suspense il est total.
Et le suspense il est là aussi parce que Liverpool déroule tranquille, une victoire sereine, épatante, impressionnante. Mathieu, c'est un train qui arrive à l'heure.
Totalement, et comme le dit la presse anglaise, les mots ne manquent pas pour qualifier la performance de Liverpool qui enchaîne 2-4-0 d'affilée contre Arsenal et Southampton. On parle de latéraux au meilleur de leur forme et d'un club qui apprend de ses erreurs aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des matchs où Liverpool menait contre Brentford, contre Brighton, et finalement ils se faisaient rejoindre. 8 buts en 2 matchs sans en encaisser un seul. C'est la preuve d'une équipe qui est au meilleur de ses capacités offensives et qui tient un peu plus défensivement, qui a un peu plus de sérénité à l'image de Manchester City. Je reprends les mots de la BBC aussi, qui vante une victoire dans laquelle chacun a eu son rôle à jouer et où Southampton a eu parfois peur de reprendre un petit peu son 9-0 hivernal. Donc Liverpool est logiquement l'équipe qui suit de très très près Chelsea et Manchester City et qui se détache même de West Ham, contre qui ils avaient perdu pourtant il y a 2 matchs.
Et puis c'est vrai que comme dit Mathieu, bon, défensivement, c'est pas encore ça. On sent que Van Dijk, il peut revenir. Enfin, il est pas encore à son meilleur niveau. Il peut faire mieux. Mais offensivement, c'est juste délirant. Là, ils en sont déjà à 39 buts après la J13. C'est leur total le plus élevé à ce stade dans toute leur histoire en première division. Donc, c'est pas seulement en première ligue. Et si on compare aux autres grosses équipes des 5 grands championnats européens, il y a que le Bayern qui fait mieux avec 42 buts. Donc, non, là, on est vraiment sur des temps de passage de folie en termes offensifs. Alors, on se dit que que s'ils réussissent à régler leurs problèmes défensifs et qu'ils gardent cette efficacité offensive, waouh, ça va faire mal.
Flo, mais ça déraille comment ce train? Parce que oui, ça a déraillé une fois face à West Ham, mais au final, on a l'impression que c'était ce pseudo coup d'arrêt comme Chelsea a pu en avoir, voire City face à Palace, mais ça a l'air tranquille en fait.
Ouais, mais mine de rien, alors moi je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais il y a eu quand même plusieurs accros pour Liverpool cette saison. Il y a eu cette défaite, mais il y a eu Brighton, match nul à City, Brentford, Chelsea. Donc déjà, moi ce qui me pose problème pour Liverpool là, c'est ces nuls face à City et Chelsea, parce que finalement c'est ces matchs-là qu'ils doivent gagner pour vraiment faire la différence face à leurs concurrents directs. Pour le coup, c'est peut-être là qu'on juge le plus, parce que c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Ils les gagnent pas finalement, ils les perdent pas non plus. Mm-hmm. C'est ce qu'il faut voir aussi, le vase à moitié plein. Mais finalement, je me dis, il y a peut-être, comme dit Loïc, encore des choses à grappiller en fait pour Liverpool, des petits ajustements à faire. Et effectivement, quand tu parles de la défense, c'est ça, parce qu'ils se font rejoindre au score plusieurs fois alors qu'ils sont devant. Parce que il y a, oui, là je te rejoins Salim sur le côté serein et dans le côté offensif, parce que quand on a Salah, Mané qui trustent tout en ce moment, et puis même je crois quand on regarde
aussi.
Quand on regarde en fait le classement des buteurs de PL, les trois premiers c'est eux. Donc on se dit, ok, c'est ultra impressionnant. On va juste rappeler qu'il y en a deux qui vont partir à la CAN dans pas longtemps, Salah et Mané, et que là, ça sera peut-être une autre histoire, parce que je l'aime beaucoup, mais Minamino, il n'a pas le même niveau quand même. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être leur poser problème, et on en saura plus, je pense, sur le cas de Liverpool à ce moment-là et sur les ambitions que peuvent avoir les Reds cette saison.
Bon, on l'observera et on continuera d'observer effectivement ces Reds tout au long de la saison, et notamment ce trio tête absolument affolant avec City et Chelsea. Nous, on va évoquer deux équipes qui sont peut-être un petit peu en dessous.
La réaction immédiate dégueulasse, et Laurent Koscielny.
Pogba, la frappe au
tour. Oh là là là, Paul Pogba en mode champion du monde. Anthony Martial, voilà. Ah, c'est magnifique sous la barre, Anthony Martial. D'entrée la casette. C'est fou. Premier match officiel en Première Ligue. Premier but pour la gâchette, la casette.
C'est aussi peut-être cela qui crée cet affect entre la population française d'un côté et ces deux équipes, entre Manchester United et Arsenal. Le fait que des Français nombreux ont joué dans ces deux équipes, ont gagné et même pour certains ont marqué dans des Manchester United Arsenal. Ce jeudi, on aura droit justement à United Arsenal à 21h15 sur RMC Sport. Alors il y a quelques années, j'aurais dit ça, on en aurait fait des heures avec des histoires incroyables à trouver. Alors on va le dire tout de suite, il n'y a pas de stats officielles, il n'y a pas de sondage officiel sur les équipes préférées des Français, mais peut-être que les résultats sportifs de ces dernières années vont dans ce sens, Loïc, où ça ne brille pas autant.
Bah, c'est-à-dire qu'on a tendance aussi à s'identifier à une équipe de par ses victoires, hein, les émotions qu'elle transmet. Et c'est vrai que Manchester United et Arsenal, depuis quelques années, c'est pas ça au niveau palmarès. Non, mais tu vois, on a regardé Flora tout à l'heure. On a pris sur les 12 premières saisons de la Première Ligue, donc de 92 à 2004. Et sur ces 12 saisons, Manchester United et Arsenal se sont partagés les titres 11 fois. Ouais. Il n'y a que Blackburn qui a remporté le titre en 95. Sinon, il y en a 8 pour United et 3 pour Arsenal. Et quand tu regardes qui est deuxième, quand United est premier, c'est Arsenal.
Ouais, bien sûr.
Et quand Arsenal est premier, c'est United, globalement, on va dire, pour caricaturer. Donc, ce sont vraiment des équipes qui ont surdominé la PL, du moins dans sa première douzaine d'années. Ouais. Et on voit bien, effectivement, l'ère Ferguson a permis à Manchester United de continuer à gagner des titres jusqu'à son départ en 2013. Par contre, Arsène Wenger, elle, même s'il est resté plus longtemps que Ferguson, s'est arrêté, on va dire, en 2004. L'arrivée de José Mourinho et d'Abramovic à Chelsea a forcément aussi rebattu un peu les cartes. Mais voilà, pour les gens, on va dire, de notre génération, ceux qui sont nés dans les années 80, bah Manchester United et Arsenal, c'est le top.
Bah tiens, petite question pour le plus jeune de la bande, Mathieu Faury. Mathieu,
il n'est pas né dans les années 80.
Oui, il est né un peu après, effectivement. Mais vous, quand vous avez rêvé ce football anglais à travers United Arsenal ou autre chose?
Alors moi qui suis né en 98, c'était aussi ma génération. United et Arsenal, au tout début, c'était eux qui succédaient aussi niveau palmarès. Moi forcément, c'était aussi un petit peu du Arsenal, mais le déclenchement, ça a vraiment été quand j'étais à Leicester en 2016. Donc non, c'était pas pendant le titre, c'était juste après. Donc Kanté était parti, il était même dans le camp d'en face, c'était contre Chelsea. Mais c'est là que j'ai découvert ce que c'était l'engouement et la passion du football anglais avec le King Power Stadium, même toute la ville où tout le monde ne parlait que ça. Il y avait les drapeaux, champion d'Angleterre, l'exploit incroyable de Leicester. Et c'est comme ça que j'ai été pris. C'était pendant que je travaillais en post-bac, j'étais parti travailler dans un pub anglais. Donc au niveau de l'ambiance, j'étais immergé comme on ne peut mieux le faire. Et donc non, ce n'était pas avec United et Arsenal que j'ai vraiment découvert la passion pour la Première Ligue, mais avec un club un petit peu plus populaire, on va dire.
Bon, on le dit tout de suite, ce United-Arsenal de ce jeudi est peut-être un poil moins emballant que ceux d'avant. Et pour cela, pour en parler de ces matchs d'avant, il faut un joueur d'avant. Et vraiment grosse prod, hein. Grosse prod, hein, ah, vraiment, vraiment pour le coup de fil à un ami. Je suis une sorte de Jean-Pierre Foucault sans les millions, mais avec Johan Djourou. Salut Johan.
Salut Salim.
Grand plaisir de vous accueillir dans PL Zone de podcast. Vous avez évidemment joué et appartenu une dizaine d'années à Arsenal, même si sur cette période, vous avez aussi été prêté à Birmingham, à Hanovre ou à Hambourg. Alors juste, tiens, question piège pour commencer. Johan, pendant toute cette période à Arsenal, est-ce que vous savez avec combien de joueurs français vous avez évolué?
Ouf. En totalité?
Ouais, à Arsenal.
Oula, attends. Je dirais en tout cas, allez, si je dois choisir un chiffre, je dirais... 14. 15.
Ah ouais. Voilà, au deuxième coup, ça a fonctionné. Bravo, Johan, c'est 15.
Voilà, c'est
exactement
ça. Et peut-être la liste rapide des joueurs en question, au final, Loïc, il y a forcément des classiques, des Thierry Henry, par exemple, qui font partie de cette liste-là, forcément.
Bah, y a du beau monde et c'est vrai que Johan a eu la chance. Hein. Johan, tu as eu la chance de côtoyer la dernière grande génération, on va dire, et puis la nouvelle. Donc, il y a eu du Clichy, du Sagna, du Nasri, du Koscielny, Diaby, Flamini, Galas, Henry, tu l'as dit. Skilacci, Coquelin, Aliadière, Sylvestre, Pires, Sigan et Giroud.
Ouais, effectivement, beaucoup de monde. Tiens, Johan, on va commencer par vous parce que là, on a envie de se faire plaisir avec des Madeleines de Proust parce que le match qui arrive est peut-être un peu moins en ballon. Je dis bien un peu parce qu'au final, United avec Rangnick, ça nous intéresse aussi
oui.
Et c'est un fait.
Clairement.
Mais il y a des choses, il y a des histoires qui sont dans nos esprits à nous tous en tant que joueurs, en tant qu'observateurs, en tant que fans, peu importe. Tiens, Johan, Madeleine de Proust, positive ou négative, dites-nous tout.
Positif par rapport, j'ai pas compris la question.
Mais une Madeleine de Proust, l'un de tes souvenirs, pourquoi pas, sur un United Arsenal qui t'a marqué positivement ou négativement?
Bon, bah, en fait, il y en a, ouais, malheureusement, bah, écoute, si je dois prendre celui qui a marqué les esprits, c'est malheureusement le 8-2.
Eh ben, tu sais quoi, Johan, tu sais quoi, je t'arrête tout de suite, on va se faire un petit plaisir, enfin, sauf pour toi, on va réentendre ça.
Continues. It's Rooney who takes it. Rooney! Brilliant! Outstanding! Walcott through the goalkeeper and gives Arsenal hope. Delightful! Absolutely delightful! And Arsenal are being put to the sword here. 5-1. Back into the danger area again. Van Persie scores. Rooney steps up. Patrick! Stunner! Can you believe that Manchester United have scored 8 goals against Arsenal?
Can you believe it?
Oui, can you believe it? 8-2 ce jour-là pour United face à Arsenal. Vous êtes titulaire, hein, Johan, dans cette défense. Et,
bravo,
et,
hein.
Mais surtout, vous arrivez à en parler facilement après. C'est bon, on y pense plus, c'est digéré.
Bah, c'est digéré, puis en plus, on est sportif, donc on est attendu au tournant dans les prochains matchs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus s'attarder trop longuement sur ce match qui a fait mal, certes, mais il faut aussi dire qu'il y avait un contexte qui fait que l'équipe était moins compétitive à ce moment-là de la compétition et que sur ce match-là, on était bien sûr beaucoup moins, on n'était pas du tout au niveau de Manchester United.
Juste, vous m'en avez déjà parlé hors antenne de ce match-là, lors de nos préparations d'émission. Vous me disiez que ce jour-là, vous étiez, vous, vos coéquipiers, dans un état normal. J'ai envie de dire, vous aviez préparé normalement la rencontre. C'est juste que ce jour-là, rien n'a fonctionné.
Oui, en fait, tu le prépares normalement. Il y a quelques blessures avant. Il y a pas mal de joueurs qui sont en instance de partance. Il y a des incertitudes. Donc, en fait, tu arrives sur un match. Et en plus, je vais te dire clairement, on a bien commencé le match avant ce... Il me semble que c'est un coup franc où Welbeck marque. On avait bien commencé le match. On a eu quelques occasions, mais malheureusement, après, on s'est, disons, 2-3. Puis après, t'as un petit peu le moral, justement, qui lâche parce qu'on manquait de figure à ce moment-là. On manquait de peut-être de leader pour recentrer tout le monde et se dire, les gars, OK, on en a pris autant. On en a pris 3. On essaie de limiter la casse. Donc... c'était vraiment une phase un petit peu compliquée pour le club et pour certains joueurs. Donc, c'était ce match-là illustre un petit peu les problèmes. Parce qu'après, il n'y a plus de matchs comme ça, disons, sur cette saison-là.
Johan, tiens, vous pouvez vous rattraper un souvenir positif quand même.
Contre Manchester, oui, on a gagné. Contre Manchester, on gagne 1-0 là-bas. Adebayor marque 7 ans. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais on les bat 1-0 à Old Trafford sur un but et une passe de Fabregas pour Adebayor.
Ah, voilà. Comme quoi, voilà, vous pouvez aussi gagner à Old Trafford, hein, comme ça a été le cas l'année dernière. L'année dernière, United, comme ça, avait perdu face à Arsenal. Loïc.
Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Johan. C'est Manchester United, Arsenal, c'est des titres, ok, mais c'est aussi des stars, c'est ce qu'il disait, des leaders, des mecs qui ont marqué leur époque. On a Roy Keane, enfin Flo, elle le répète à longueur de podcast,
mais c'est ma Madeleine de Proust que j'allais te donner.
Voilà, c'est les mecs comme Roy Keane, Scholes, les frères Neville, et pour côté Arsenal, bien sûr, Thierry Henry, Bergkamp, Vieira, Adams, tous ces gars-là qui rayonnaient, quoi, en fait, et à qui on s'identifiait et justement qui faisait un peu rêver, qui vendait du kiff, chose qu'on a moins maintenant avec ces deux clubs-là.
Bah, tu savais, en fait, quand tu arrivais sur le Arsenal-United, voilà, dans cette période-là, t'arrivais, tu savais que ça allait bastonner, quoi, au milieu de terrain, rien que ça. Enfin, moi, ma Madeleine de Proust de ce match-là, c'est Highbury en 2005, tu vois, c'est le couloir avec Vieira, avec Keane qui s'interpellent les deux. On se retrouve dehors, on se retrouve sur le terrain, t'inquiète. Et ça chauffe de dingue. Et le match, il n'a même pas commencé, quoi. On se dit, on voit la rivalité. Bon, Keane, il est comme ça en permanence. Mais on se dit, voilà, il y a tellement d'enjeux et de fierté, surtout à ce moment-là. Parce que Keane, il l'a expliqué longtemps après. C'est parce qu'en fait, Vieira, il avait pris à partie Gary Neville pour le coup. Et là, Keane, lui, le capitaine, ça ne lui a pas plu. Tu t'attaques au plus faible, viens t'attaquer au gros, etc. Et là, on sent, voilà, la personnalité, en fait, des joueurs. Là, on se dit, il y a un truc qui ressort. Aujourd'hui, c'est plat, voilà, il se passe rien finalement. Où nous, quand on va regarder ce match, on se dit, on espère que oui, il y ait des buts dans ce match-là. On sait qu'il y aura pas un truc de dingue, on sait qu'il va pas se passer vraiment un truc de fou. Il y aura pas de grosse personnalité en fait sur le terrain à ce moment-là. Donc, on s'attend plus à ce côté explosif en fait qu'il y avait.
Tiens, Johan, petite digression. On le rappelle, vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans à Arsenal. Est-ce que vous-même, vous étiez, j'ai envie de dire, fan d'Arsenal en arrivant là-bas? Vous dites, ah, j'arrive dans mon club préféré, ou c'est en jouant à Arsenal que vous êtes devenu fan du club londonien?
Non, écoute, en fait, il y avait de toute façon des joueurs phares, hein, c'est-à-dire justement ces joueurs français qui étaient pour nous en Suisse des joueurs en tant qu'on comprenait comme idoles. Vieira, par exemple, pour moi, en tant que fils de formation, qui était totalement le joueur phare à regarder. Donc, c'est clair qu'en fait, quand tu arrives à Arsenal, et surtout à Arsenal, tu es quand même fan du club. Tu te dis, justement, Patrick Vieira, Thierry Henry, pourquoi eux et pas moi, en fait, à mon niveau, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives dans un club où tu es de toute façon déjà un petit peu comme à la maison à cause de la langue, mais aussi surtout parce que tu t'identifies assez rapidement à cause du coach et que tu es fan aussi un petit peu.
Tiens, Johan, vous l'avez dit, Thierry Henry, c'est facile de jouer et d'être le partenaire d'un joueur dont vous êtes un peu fan aussi?
Bon, en fait, on s'y fait rapidement. C'est quelque chose qui part dès l'instant où on est à l'entraînement. C'est-à-dire que je me rappelle très bien. J'arrive à l'entraînement, Patrice m'appelle. Je crois que Saul Campbell se blesse. On fait des 5 contre 2. Je suis au milieu avec il y a Titi, il y a Pat, Vieira, tout ça. Puis on doit jouer. Puis tout d'un coup, bah, tu as une pression qui monte. Tu te dis, putain, en fait, il y a tous les gars qui sont à côté de toi. C'est des bêtes. Comment tu vas faire? Tu vois, calme-toi. Tu vois, tu as le cœur qui bat à 10 000. Mais tu te reprends parce que tu sais qu'au final, bah, si tu veux jouer à ce niveau-là, il faut pour montrer ton meilleur visage. Et c'est ce que tu fais. Et au final, tu prends vachement de plaisir. À un moment donné, tu as carrément les gars qui te parlent en respect et qui te disent ce que tu peux faire de mieux, ce que tu fais de bien, et qui essayent de t'amener vers le haut, en fait.
Mathieu, votre Madeleine de Proust à vous sur un United Arsenal?
Il est trop jeune. Ah,
pour moi, qui ai toujours aimé Arsenal quand même, surtout enfant, c'était quand même ce match-là le plus marquant, donc plutôt au sens négatif. Mais en fait, c'était un peu comme la fin d'une époque. Je voyais Arsenal pouvoir rivaliser avec Manchester United toutes les saisons. Là, Manchester United était champion en titre. Je voyais Arsenal essayer d'encore aller les chercher un petit peu. Et ce match-là, qui était dès le mois d'août en plus, si je ne dis pas d'erreur.
Ouais, absolument.
Le 8-2, ouais. Là, il fait énormément mal. Tu te dis, cette équipe-là, j'appelais un petit peu mon équipe anglaise à l'époque, elle est presque finie par rapport à United. Un 8-2, c'est trop puissant. Et pourtant, tu as Walcott qui marque, tu as Van Persie qui marque, des joueurs dans lesquels tu avais beaucoup d'espoir. Et tu te dis, même avec eux, 8-2, ça, c'est un symbole qui fait trop mal en fait. Et sur les 20 années de ma vie à peu près où j'ai suivi la Première Ligue, enfin non, quand même moins, c'est forcément le United Arsenal le plus marquant pour moi.
Alors, perso, j'en ai beaucoup des souvenirs. Je pourrai les évoquer dans un instant, mais il y en a un qui m'a encore plus marqué que les autres. c'est ce but incroyable de Thierry Henry. Il est fou ce but. Quand il se soulève ce ballon, il appuie sur Denis Irwin. Denis Irwin n'y peut rien. Et il arrive à se retourner, à lober Barthez de manière affolante. Il gagne 1-0 ce jour-là face à cette formation de Manchester United. C'est vrai que ce but, il est dingue. Ça fait partie de ses buts, ses plus beaux buts de l'histoire de la PL quand même.
Ah bah carrément, là, je pense qu'on est dans ce qui se fait de mieux. Et puis c'est vrai que les Henry contre Barthez, quand Barthez fait deux erreurs dans le même match et que Henry en profite avec le petit sourire, l'air de dire merci Fab, c'est sympa, mais c'est j'en cadeau. Avais pas besoin. Enfin voilà, tous ces. Je me souviens aussi d'Arsenal qui va gagner, je crois, Old Trafford en maillot or.
Ça leur, le titre voilà,
exactement. Où voilà, on sentait la tension, mais comme on disait avec Flora, il y a tous ces grands noms, toutes ces gueules, mais il y avait aussi Wenger, Ferguson, quoi.
Mais c'était
enfin voilà, deux immenses personnages qui ont fait vivre cette rivalité aussi.
Johan, vous êtes déjà Arsenal, hein, lors de la fin des Invincibles.
Oui.
C'est ça, et c'est face à Manchester United, on le rappelle, avec notamment ce pénalty à la fin marqué par Van Nistelrooy.
Le pénalty imaginaire,
absolument. Lui qui, un an auparavant, avait raté son pénalty face à cette même formation d'Arsenal dans les dernières secondes. À l'époque, ça avait été quelque chose de dur pour Arsenal, non, de perdre comme ça cette invincibilité.
Oui, surtout sur, bah justement, comme c'était les rivaux, on va dire, premiers, ouais. Bah, si on enlève Tottenham, par rapport justement à l'invincibilité, par rapport à la, on va dire, la grandeur du club, c'est vrai que ce match était important et surtout de le perdre de cette manière là-bas. Après, si je dois rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux personnalités, c'est vrai qu'on avait à l'époque des Keane, des personnages, on avait Wenger, Ferguson, comme on l'avait justement dit. Et c'est pour ça, autant que ça faisait tellement mal aujourd'hui, on n'a pas forcément le ressenti qu'en fait, déjà, il manque justement du personnel et surtout des personnalités pour avoir ces duels explosifs, parce que bien sûr les générations changent aussi. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont aujourd'hui qui jouent peut-être moins pour le maillot comme à l'époque. À l'époque, on s'identifiait vraiment au maillot, on était fan de notre équipe et on se battait pour les couleurs du club chaque week-end. Aujourd'hui, le foot est devenu un peu plus moderne, où les gens sont contents d'être dans un club et qui a peut-être moins cette identification personnelle qui fait qu'un Rekin ou un Vieira ou un Titi ou encore un Ferdinand ou un Vidic qui arrivent dans des clubs où justement on leur enseigne directement la culture du club. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque dans ces nouveaux, on va dire, ces nouveaux visages de Manchester et de Arsenal qui fait qu'on a moins de cette explosivité dans ces matchs-là.
Ouais, c'est vrai, il a raison en fait, Johan, parce que c'est vrai que quand on parle quoi, de l'amour du maillot comme ça, on a l'impression que ça vient d'une autre époque, que ça existe même plus trop aujourd'hui, etc. Mais pour la fin des deux équipes, il y a un joueur qui est assez symbolique, c'est Van Persie finalement qui fait voilà, des saisons incroyables avec Arsenal sans jamais rien gagner finalement avec les Gunners et qui se dit à un moment donné, j'en ai marre, quoi, j'ai envie de gagner un truc.
Je veux soulever un trophée.
Il se barre à United et il est champion, quoi. Ouais,
oui.
Et il marque 30 buts dans la saison et il est incroyable et on se dit, ok, bah, lui il comprend tout de suite que cet amour du maillot qu'il pouvait avoir, bah, là il faut la lâcher s'il veut gagner quelque chose et c'est aussi tout symbolique que ça se fasse entre ces deux clubs là.
Et c'est vrai, pour finir, allez-y Joanne.
Ouais, après je voudrais juste réagir parce qu'en fait ça c'est tout un contexte qui est aussi important de remettre, c'est-à-dire que tu as une équipe de Manchester qui gagne des titres et qui a surtout aussi des caisses plus importantes, donc ils peuvent en fait promettre ou en tout cas envisager que c'est envisageable de dire à Robin, écoute, ouais, si tu viens chez nous, on va se battre pour le titre. Tandis qu'Arsenal, on est toujours dans cette phase de reconstruction avec le stade,
donc on doit bricoler
en fait. Donc c'est vrai que tu perds Van Persie, tu perds Thierry Henry et tu en perds d'autres comme ça parce qu'au final, tu es obligé de vendre pour payer le stade. Donc ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, cette rivalité, elle se perd parce qu'un club ne peut plus garder ses meilleurs joueurs pour avoir justement être compétitif sur le long terme, mais un autre est compétitif et continue en fait de prendre les meilleurs joueurs d'Arsenal aussi et d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est clair qu'Arsenal a été lâché derrière.
Mais rivalité, mais quand même respect, je terminerai là-dessus. Moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué, c'était en 2018, rappelez-vous, lorsque Wenger termine sa carrière à Arsenal. Quelques semaines avant, il y a le Manchester United Arsenal et il est accueilli sur la pelouse avant le match. C'est José Mourinho qui l'entraîneur à ce moment de Manchester United. José Mourinho l'accompagne et puis il s'arrête, le portugais, parce qu'il ne veut pas être sur la même photo que Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. C'est uniquement les deux. Après, même, c'est Sir Alex et Arsène qui disent à José, si, viens avec nous. José vient et se retire. Alors, on dira c'est de la com, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi quand même...
Il ne s'aimait pas trop quand même Mourinho Wenger, c'est pas toujours...
Mais pour le coup, sur ça, on voit quand même une sorte de respect, parce que malgré tout, évidemment, Mourinho sait tout ce que Wenger rappelle. Et oui, comme quoi, il y avait bel et bien du respect aussi entre ces deux institutions anglaises qui, on l'espère, évidemment, redeviendront des institutions champion mondial aussi, United et Arsenal. Merci beaucoup, Johan. Un grand plaisir
vraiment
de vous avoir avec nous dans ce podcast pour évoquer ce United Arsenal qui arrivera ce jeudi à 21h15. La fin de ce PL Zone, le podcast. Il y avait encore une fois des choses à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Flora. Merci, Loïc. Merci, Mathieu.
Avec plaisir.
En direct de Manchester. Donc, un grand merci à Samantha Zweck et à Julie Doreau derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours. Le hashtag PL Zone sur Twitter. Et pour vous, car oui, ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, come on, you Irons. Ciao.